Là, nous allons démarrer cette audition. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame, Messieurs, comme vous le savez, le 5 décembre prochain marquera l'échéance de l'autorisation dont dispose la chaîne Canal+ pour sa diffusion sur la télévision numérique terrestre payante. Cela rendra disponible une ressource de 195 millièmes sur le multiplex R3. Afin de préparer cette échéance, et conformément à la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'abord lancé une consultation publique pour recueillir l'avis des différentes parties prenantes, puis réaliser une étude d'impact pour prendre en compte la situation économique des marchés concernés. Ces étapes préalables nous ont conduit ensuite à lancer le 26 février dernier un appel à candidature pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé en haute définition et sous conditions d'accès, c'est-à-dire faisant appel à une rémunération de la part des usagers. À l'issue de cet appel, une unique candidature a été reçue par le Conseil supérieur, qui a été déclarée recevable donc le 22 juillet dernier, candidature donc du service Canal+, édité par la société d'édition de Canal+, que vous représentez ce matin. L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'audition publique des candidats. C'est cette audition qui est retransmise donc en direct sur notre site internet qui nous réunit ce matin. Sa durée a été fixée par le Conseil à 1 h 30. Elle débutera par une présentation liminaire de la candidature et sera suivie ensuite par des questions des membres du Collège. Ces questions pourront notamment s'appuyer sur le dossier de candidature que vous avez déposé. L'audition de ce matin permettra ensuite au Collège de sélectionner le candidat retenu. Deux étapes resteront alors à accomplir avant le 5 décembre. La négociation de la convention d'une part, qui liera la chaîne au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et d'autre part, la délivrance de l'autorisation. Monsieur le Président, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, merci de nous recevoir ce matin. Je vous propose peut-être, avant de démarrer la présentation, de visionner une petite bande-annonce que nous avons préparée à votre attention. Si on a plus de volume, je ne sais pas si c'est possible. Bien joué. venez de voir dans cette bande-annonce une parfaite synthèse entre le Canal Plus d'hier, celui des origines, dont on retrouve encore aujourd'hui tous les fondamentaux autour du modèle généraliste, et le Canal Plus d'aujourd'hui, qui résulte de la transformation majeure que nous menons depuis 5 ans. Le groupe Canal Plus aujourd'hui est devenu un groupe international, fort de 20 millions d'abonnés répartis sur 3 continents, un groupe massivement digitalisé grâce à la puissance de notre interface MyCanal, et un groupe de médias qui n'est plus seulement diffuseur et distributeur de biens culturels, mais qui en produit lui-même, les exporte et contribue directement au rayonnement de la culture française et européenne dans le monde. Un changement d'échelle, donc, qui répond à une nécessité d'évoluer pour résister à la dynamique concurrentielle mondiale. C'est pourquoi les enjeux du groupe relatifs à la TNT ne peuvent pas être les mêmes qu'auparavant. Nous les appréhendons avec une grille d'analyse et une approche nouvelle, une approche amplifiée par le contexte, lui-même très particulier, et ce, à plus d'un titre. Car les conditions dans lesquelles s'inscrit cette audition sont totalement inédites, du fait de la situation sanitaire évidemment, mais au-delà, c'est le contexte lui-même qui est inédit. Canal+ est la première chaîne à arriver au bout des reconductions simplifiées de son autorisation TNT, comme vous le savez. Elle l'est bien en avance de phase par rapport aux autres grandes chaînes historiques de la TNT, comme TF1 et M6, qui voient leur autorisation prendre fin dans 3 ans. 3 ans d'écart dans le secteur de la télévision, c'est immense. Aussi bien dans les usages que dans les changements technologiques et les mutations de l'environnement concurrentiel. Deuxième point de contexte important, Canal+ est le seul candidat à sa propre succession, vous l'avez dit, Monsieur le Président, là encore c'est inédit, mais également signifiant. Car cela peut vouloir dire qu'aucun nouvel entrant ne juge la TNT suffisamment attractive pour candidater, ou surtout qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autres Canal+ potentiels et d'alternatives à Canal+ que Canal+. Ce qui est d'autant plus riche en enseignement que beaucoup, surtout au cours des dernières années, ont explicitement voulu nous remplacer. Ce qui dit assez combien Canal+, unique à l'époque de sa création, l'est encore, même si les temps ont changé, avec une singularité d'identité et une place à part dans son écosystème qui ne sont pas faciles à reproduire aujourd'hui. Et je vous remercie d'ailleurs, puisque le CSA l'a reconnu en jugeant recevable notre candidature. Je vous en remercie à nouveau. Si nous occupons toujours une place à part, c'est parce que nous sommes les seuls à défendre depuis 35 ans le même modèle. D'ailleurs, je dis souvent aux équipes, soit on est des idiots, soit on est des génies. C'est l'un ou l'autre. Celui d'un service de cinéma payant de première diffusion accessible sur la TNT, qui repose sur une éditoriale généraliste, réservant une part massive au sport, au cinéma et aux séries, complétée par les programmes de flux, de documentaires et d'animation que Gérald Brice-Viret, directeur général des antennes, décrirait beaucoup mieux que moi. Et avec une mission inscrite dans nos gènes, financer, diffuser, promouvoir le meilleur de la création audiovisuelle et cinématographique nationale. C'est précisément la pérennité de ce modèle unique en France et en Europe qui est menacée aujourd'hui si notre environnement législatif, réglementaire, concurrentiel et fiscal continue à se dégrader comme il le fait en continu depuis une quinzaine d'années. Ce modèle, et j'insiste, Monsieur le Président, nous y croyons toujours. Nous avons la conviction qu'un Canal+ généraliste, accessible sur la TNT, financeur et porteur de la culture française, a encore de l'avenir et peut tirer son épingle du jeu. Nous en sommes persuadés, même si avec notre modèle, nous allons à l'inverse de 2 tendances majeures. Première tendance, la délinéarisation systématique. Tous les concurrents majeurs qui dynamitent le marché depuis 5-6 ans, à un rythme qui s'accélère, sont pour l'essentiel des plateformes qui n'ont rien à faire de la TNT, et passent soit directement en OTT, soit en CAPSAT pour leur distribution. Ce n'est pas l'arrivée imminente de Salto qui viendra me contredire. Les insuffisances techniques de la TNT sur le délinéaire sont donc problématiques à une ère où l'accessibilité des mêmes programmes pour tous est de plus en plus délaissée au profit de la consommation individuelle à la demande, à une exception près majeure, le sport. Et ce phénomène va encore plus s'accentuer dans les prochaines années, c'est la plateformisation de la télévision. Canal+ développe certes MyCanal avec succès et continuera à le faire, mais reste encore un éditeur et distributeur omnicanaux de diffusion. Deuxième phénomène, la fragmentation monothématique. Elle est évidente pour toutes les plateformes qui se lancent dans le cinéma et les séries, mais aussi pour tous les nouveaux acteurs plus traditionnels lancés depuis 10 ans sur le sport, Bein ou le cinéma avec OCS. Téléfoot en est le dernier exemple en date. Personne ne semble croire dans le modèle généraliste ni ne le pratique à l'exception de Canal+. Peut-être parce que personne n'est réellement intéressé dans le fond à la persistance et à l'accroissement de l'exception culturelle française. Ce qui n'est pas un hasard, puisque la quasi-totalité des concurrents dont nous parlons, OCS à part, mais qui est distribué pour 2/3 de son parc d'abonnés par Canal+, je le rappelle, sont étrangers aux mains de géants américains, de la tech ou de fonds souverains. Donc malgré ces vents contraires et du fait même de notre singularité qui nous a permis de survivre à plusieurs vagues concurrentielles, nous sommes persuadés que ce qui a réussi dans le passé pour Canal+, pour le cinéma, le sport et plus généralement la culture française, réussira à nouveau à l'avenir. Nous le savons. C'est pour cela que nous avons déposé notre candidature, parce que nous croyons dans la vertu de ce modèle et ses effets structurants et bénéfiques pour l'écosystème. Mais un modèle si particulier ne peut tenir qu'avec un environnement également particulier et qui le soutient dans la durée. Sinon, il faut en tirer les conséquences. Est-ce que l'environnement législatif, réglementaire, fiscal, de régulation et concurrentiel autour de nous y croit encore, lui, à ce modèle ? Le problème, c'est que nous avons de sérieuses raisons d'en douter. Canal+, à l'origine, c'est un pacte passé entre une entreprise à statut et à mission inédit et l'État. Financer massivement et diffuser tout aussi massivement le cinéma français et plus généralement l'exception culturelle, avec pour soutien le triptyque une TVA réduite, une place privilégiée dans la chronologie des médias, une autorisation TNT octroyée par la puissance publique. Or, où en sommes-nous aujourd'hui ? Le niveau des obligations est toujours inégalé. Il a même été conforté dans l'accord signé en 2018 avec le cinéma et encore accru de 15 millions d'euros par an sous votre autorité, Monsieur le Président. En revanche, la TVA est passée de réduite à intermédiaire. C'est 100 millions de pertes annuelles pour Canal+, Grégoire Castaing, directeur général adjoint du groupe, y reviendra. Dans le même temps, le nombre d'abonnés TNT en attrition constante rend les coûts de diffusion de la TNT économiquement non rentables. Grégoire Castaing y reviendra également, je ne m'y penche pas plus. C'est un coût avant d'être un avantage réglementaire, comme va le développer Grégoire. Quant à la chronologie des médias, enfin, les pouvoirs publics n'arrêtent pas d'insister pour dire qu'en 2021, en contrepartie de la contribution des plateformes dans le financement du cinéma français, ces dernières bénéficieront d'une avancée significative qui ne pourra, hélas, que dégrader encore la proposition de valeur du cinéma chez Canal+, pourtant la clé de notre différenciation. Au-delà de tout cela, il ne faut pas oublier que cette différenciation s'est dégradée au cours des dernières années par les choix des pouvoirs publics, à commencer par la multiplication des chaînes de la TNT qui proposent toutes du cinéma, 3500 films en 2019, soit plus 70% en 10 ans, mais également l'explosion du piratage sans arsenal législatif pour y remédier, et je sais que vous y tenez tout autant que moi, ou encore plus récemment la fin des jours interdits de cinéma pour les chaînes gratuites et donc un avantage concurrentiel important pour Canal+ et OCS qui a disparu. Si on analyse les choses froidement, ce pacte initial n'aurait donc plus lieu d'être. Il n'y a plus qu'une partie qui y croit pendant que l'autre semble tout faire pour affaiblir la première. Je passe la parole à Grégoire Castaing qui va développer les conséquences de cette situation.
Merci Maxime. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, les conséquences de la dégradation généralisée de notre environnement concurrentiel et réglementaire que Maxime vient d'évoquer amène sincèrement à s'interroger sur les perspectives que le groupe a encore en France, par rapport notamment à celles qu'offre notre déploiement à l'international. Vous le savez, aujourd'hui, l'intégralité des profits du groupe est réalisée en dehors de France. Malgré nos efforts considérables ces dernières années, déployés pour redresser l'activité sur le territoire national, à commencer, Maxime l'a évoqué, par un plan d'économie d'1 milliard d'euros sur 3 ans, plan d'une ampleur inégalée dans tout l'audiovisuel, les difficultés économiques de la France persistent. Nous avons certes résorbé une partie des pertes des chaînes Canal+, qui, je vous le rappelle, en 2016, étaient de l'ordre de 400 millions d'euros par an, grâce à toutes ces actions, mais cette activité reste toujours nettement déficitaire. Le développement international porte non seulement les profits du groupe, mais lui offre la possibilité de trouver des réserves de croissance que la France ne peut plus offrir dans les conditions actuelles, à savoir un marché ultra concurrentiel, avec des acteurs qui quasiment tous sont déficitaires, et un environnement réglementaire qui peine à défendre son champion national. Heureusement, nous sommes désormais présents directement dans près de 40 pays, et nous ne comptons pas nous arrêter là. Ces derniers mois ont été marqués, par exemple, par nos investissements au Myanmar, notre renforcement au Nigeria avec l'acquisition de Rock Studio, ou encore l'amorce de notre développement en Éthiopie. Mais l'acquisition récente de M7, acquisition la plus importante de l'histoire du groupe, prouve également que si notre développement se fait aujourd'hui en dehors de France, nous restons avant tout un groupe avec un ADN européen fort. Nous aimerions que ces perspectives positives de croissance se retrouvent sur le marché français. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. La concurrence s'est encore intensifiée, allant d'un cran plus loin dans l'irrationalité financière avec le lancement de Téléfoot. Un nouvel acteur sur ce marché saturé du sport, dont les intentions vis-à-vis de Canal ne paraissent pas cordiales, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, comme vous le savez, nous avons été contraints de les assigner devant le tribunal de commerce, tant ils nous traitent pour le moment de manière discriminatoire. Chaque cycle, chaque appel d'offres amène de nouveaux concurrents, prêts à essuyer des pertes considérables. Avant Mediapro, il y a eu par exemple TPS, Orange Sport, beIN, puis Altice. Et malheureusement, la spécificité du marché français est que ces acteurs, non rentables sur l'activité de télévision payante, pour la plupart persistent, se sédimentent et distordent durablement ainsi le jeu concurrentiel. Dans le même temps, Canal doit aussi faire face, bien sûr, à l'accélération par les plateformes de leur stratégie de désintermédiation et de mondialisation. Disney+, mais ce sera aussi le cas de Peacock, de Paramount ou de HBO prochainement, se surajoutent aux géants américains du numérique qui sont déjà lancés sur le marché français comme Apple, Amazon ou Netflix. Enfin, le piratage, on a déjà eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois ensemble, prend des proportions exponentielles, puisque rien ou pas assez n'est fait pour l'endiguer, alors que les technologies pour accéder à ces contenus de manière illégale ne cessent d'évoluer et de se raffiner. Le piratage en IPTV, par exemple, est pratiqué par 3 millions de Français et permet d'accéder gratuitement, à des centaines de chaînes sans qu'aucun dispositif législatif ne permette de lutter contre. Au total, on recense plus de 11 millions de pirates en France. Cette dynamique s'est accélérée depuis le confinement et on peut craindre que le lancement de Téléfoot engendre encore une nouvelle poussée de ces pratiques illégales. Maxime l'a dit, rien n'est fait pour nous aider dans cette conjoncture. Au contraire, nous constatons une intensification, année après année, de la pression fiscale, notamment via la TVA, qui, on vient de le rappeler, génère un surcoût de l'ordre de 100 millions d'euros par an, mais pas que. Depuis au moins 10 ans, chaque projet de loi de finances apporte son lot de mauvaises nouvelles pour Canal. L'automne est toujours une période angoissante, en particulier pour le directeur financier que je suis, pendant laquelle on attend fébrilement les nouvelles sanctions fiscales rendant à court terme l'exercice budgétaire impossible et à moyen terme notre modèle structurellement de plus en plus déficitaire. Sur ce marché français déjà difficile, ultra concurrentiel et déficitaire, la TNT pose par ailleurs des problématiques spécifiques, dues à la fois aux limites technologiques de ce mode de diffusion, aux obligations associées à l'utilisation de cette fréquence et aux contraintes supplémentaires issues de l'appel à candidature. L'offre TNT payante de Canal+ est d'abord beaucoup moins riche que celle déployée sur les autres modes de réception. Alors, par exemple, que notre offre mini-pack ne propose que 5 chaînes, les autres modes de diffusion permettent tous l'agrégation de centaines de chaînes et plateformes appartenant au groupe Canal+ ou à ses partenaires. Lorsque nous essayons de pallier aux lacunes de cette plateforme, en proposant par exemple des disques durs à nos abonnés TNT connectés pour améliorer leur expérience utilisateur, c'est une fois encore la fiscalité qui bride nos ambitions avec un système absurde et anachronique. À cause de la copie privée, le montant de la taxe assise sur les disques durs est totalement prohibitif. Pour vous donner un exemple, en France, pour l'achat d'un disque dur de 1 Teraoctet, qui nous coûte après négociation environ 40 euros, nous devons nous acquitter d'une taxe de 30 euros. Nous sommes dans une situation ubuesque. Nous achetons des disques durs à 1 Teraoctet, puisque c'est les seuls qu'on peut trouver sur le marché. Nous les bridons à 80 gigas, pour essayer de limiter le montant des taxes, qui quand même à ce niveau-là se situe à 16,50 euros. Et tout le monde est perdant. Nous sommes perdants car les disques durs coûtent en moyenne 30 à 40% plus cher que ce qu'on peut observer dans d'autres pays européens. Et l'abonné TNT, surtout, est pénalisé puisqu'il n'a accès à qu'à 80 gigas, alors que son disque dur pourrait lui offrir 1 téraoctet, voire 2 téraoctets, comme chez Sky, par exemple, au Royaume-Uni. Je ne parle même pas du cloud, pour lequel nous ne parvenons même pas à obtenir une réglementation qui ait du sens, alors que pourtant ce serait là encore une opportunité pour améliorer l'expérience des abonnés TNT. Ça n'est malheureusement qu'un exemple parmi d'autres. Et tout cela fait que la TNT n'a cessé de perdre en attractivité et par conséquent en nombre d'abonnés ces dernières années. Canal+, vous le savez, ne fait malheureusement pas exception à ce phénomène avec une baisse régulière et continue de son parc. Nous avons eu jusqu'à 2 millions d'abonnés TNT. Il y a 10 ans déjà, nous n'en avions plus qu'un million et aujourd'hui à peine 400 000. Notre parc TNT ne représente plus que 4% du parc d'abonnés de Canal+ dans le monde. Et cette part est encore plus faible quand on regarde la France avec seulement 2% de notre portefeuille global. Et aujourd'hui, la TNT en France ne représente même plus 1% de nos recrutements annuels. Dans le même temps, les coûts de diffusion de la TNT restent élevés. Malgré toutes les discussions avec nos partenaires TDF et Towercast pour essayer d'adapter ces coûts, ces derniers, nous les remercions pour leurs efforts, n'ont pu et ne pourront baisser les charges en proportion de la baisse d'abonnés. Vous le savez, je viens de le rappeler, nous perdons de l'argent en France métropolitaine et si nous comparons la TNT et le satellite, par exemple, qui n'est pas le mode de diffusion le plus moderne, je le reconnais, on observe, par exemple, que le revenu moyen d'un abonné TNT est 30% plus faible que celui d'un abonné satellite. Et dans le même temps, le coût de diffusion pour un abonné TNT est 2,5 fois plus élevé que pour un abonné satellite. Et encore, quand je fais ce ratio, je ne le rapporte pas au nombre de chaînes transportées. Ce serait bien sûr encore plus défavorable à la TNT. Et le problème fondamental n'est pas seulement que la TNT est chère dans l'absolu et plus chère en relatif que d'autres plateformes, mais c'est surtout que, d'abord, je viens de le rappeler, nous perdons de l'argent en France, mais que dans le contexte de marché que je viens de décrire, elle va coûter structurellement de plus en plus cher. Malgré tous nos efforts, les coûts de diffusion ne pourront jamais baisser, je l'ai dit, aussi vite que la base d'abonnés. Et les contraintes techniques et réglementaires, que j'ai également évoquées, ne laissent espérer aucune hausse de l'ARPU du revenu moyen par abonné à moyen terme. Si nous faisons des projections à 5 ans, la TNT va donc nous coûter de plus en plus cher et un abonné sur cette plateforme sera de moins en moins rentable pour le groupe. Face à cette situation, comment pourrions-nous accepter les contraintes supplémentaires issues de l'appel d'offres ? Comment partir sur une durée d'autorisation de 10 ans alors que l'obsolescence accélérée de la TNT et la vitesse des bouleversements concurrentiels rendent impossible toute projection à une échéance aussi lointaine ? Comment envisager de continuer avec des règles aussi rigides que celles imposant aux déclinaisons thématiques de la chaîne principale, d'être composée de programmes différents de cette dernière, dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel. Année après année, ce panorama d'ensemble se dégrade, et aujourd'hui, malheureusement, on peut considérer que de ne pas rester sur la TNT, ce serait ni plus ni moins que répondre rationnellement à la dégradation assumée par les pouvoirs publics de l'ensemble de l'édifice sur lequel pourtant a été construit Canal+, avec et par ces mêmes pouvoirs publics. Je vous remercie.
Vous l'avez compris, même si la TNT nous pose question, les problématiques du groupe sont beaucoup plus vastes que cette dernière. La TNT est tout de même un parfait résumé des avantages historiques de Canal+, qui soit ont disparu, soit sont devenus des carcans, et auxquels on nous demande de continuer à nous accrocher sans jamais pouvoir solliciter un assouplissement des obligations qui les accompagnent. Or, il nous serait tout à fait légitime, rationnel et possible de nous délier des rigidités liées à notre modèle en quittant la TNT. Je précise que cela ne reviendrait pas à retrouver les mêmes obligations inchangées sur un autre mode de diffusion. Nous serions capables d'adapter notre modèle. Nous avons d'ailleurs su récemment réinventer le modèle économique et commercial de Canal+, en revoyant tous les dogmes en profondeur. Mode de commercialisation, prix, offre, modalité d'engagement. Nous saurions donc aller beaucoup plus loin si nous le voulions, en changeant la structure même du service Canal+, la ligne éditoriale de la chaîne, voire son statut et son objet principal. C'est pourquoi nous voulons profiter de cette audition pour poser une question au Conseil, mais aussi à la puissance publique dans toutes ses composantes. Comment nous aider à faire un choix qui n'est pas nécessairement rationnel, alors qu'il nous serait facile, à la croisée des chemins où nous sommes cette année, de miser massivement sur l'international et la digitalisation plutôt que de s'accrocher à un passé dont l'État semble pourtant vouloir liquider l'héritage et à un marché national ultra concurrentiel et structurellement déficitaire, comme l'a rappelé Grégoire Castaing. Ce qu'on nous demande en candidatant sur la TNT, finalement, c'est une sorte d'acte de foi dans ce que notre environnement saura finalement reconnaître que Canal+ est bien une singularité française qu'il faut préserver plutôt que de taper dessus. Dans cette présentation, nous voulions avant tout faire passer un message simple. Il serait dommage pour l'État, pour le CSA, pour le cinéma français, pour le sport, pour notre culture en général, de ne plus avoir le Canal+ que vous connaissez et qui a su beaucoup apporter par le passé, continue à le faire et pourrait continuer à le faire à l'avenir. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Or, nous n'en avons pas. Et ce, depuis trop longtemps. Nous avons même subi depuis 15 ans des preuves permanentes de désamour. C'est le moment ou jamais pour nous pour recevoir ces preuves tant attendues. Car il n'y a pas de moment plus charnière pour notre secteur que cette fin d'année. Alors qu'une révision de la chronologie des médias est attendue, dont nous sommes déjà annoncés comme les premiers perdants, nous aimerions adresser le message aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il faut au contraire faire évoluer intelligemment le cadre actuel pour que tout le monde en bénéficie, tout en préservant en priorité la place de ceux qui font tenir financièrement tout le système. Une réforme audiovisuelle est en cours et même si elle est au milieu du gué, elle n'en emporte pas moins des sujets structurants comme la capacité pour les diffuseurs à se constituer des catalogues. Le sujet est là, il est à ce stade mal posé, mais nous voudrions croire que le triomphe du bon sens reste possible. Un PLF va bientôt être déposé et examiné au Parlement. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises, la question fiscale est vitale pour Canal+. Parce que la spécificité fiscale de Canal+ répondait directement à son statut unique de chaîne de cinéma à modèle généraliste sur la TNT. Perpétuer ce statut, c'est revenir à cette spécificité fiscale. Garder Canal+ aujourd'hui sur la TNT n'a de sens économiquement et statutairement au titre de la cohérence qu'en revenant à un taux réduit qui existait encore jusqu'en 2011. Or, tous les PLF, ou presque, depuis une dizaine d'années, se traduisent au contraire peu ou prou par un alourdissement continu de notre pression fiscale, à rebours donc de toute logique industrielle de soutien à un opérateur qui souhaite pourtant rester un outil français au service de l'exception culturelle nationale et une alternative à la captation de notre patrimoine culturel par des acteurs étrangers. L'allègement dès à présent de notre pression fiscale en général, vous l'avez compris, est pour nous une priorité absolue, la première des priorités même, car elle leverait les hypothèques menaçant notre développement en France, tout en nous permettant de renforcer notre investissement dans la création, et plus généralement de renforcer notre résilience face à la pression concurrentielle. En conclusion, nous sommes par nature optimistes, car on nous a déjà donné plusieurs fois mort, notamment au cours des 5 dernières années. Nous sommes toujours là. Et nous croyons, j'ai l'impression de chanter Elton John, mais... Et nous croyons plus que jamais aux vertus de notre modèle, à ce qu'il apporte au modèle culturel français, et plus largement encore à la souveraineté culturelle, à un moment où elle n'a jamais été si menacée par l'hégémonie mondiale du divertissement américain. Nous croyons fermement en notre capacité à constituer une alternative crédible et durable. Notamment, nous appuyons sur les 4 piliers éditoriaux de la chaîne Canal+, sur lesquels travaille ardemment Gérald Brice-Viret. Le cinéma, avec près de 500 films diffusés chaque année, dont une grande partie en première exclusivité, faisant de Canal+ une vitrine de l'excellence et de la diversité du cinéma mondial, en particulier français et européen. Le sport, avec une offre incomparable, la Ligue 1, le Top 14, la Première Ligue, les sports mécaniques. Depuis qu'on diffuse les sports mécaniques et la moto, les Français gagnent. Coïncidence, je ne crois pas. L'AD1 féminine, sans oublier la boxe, le golf et la Ligue des Champions et l'Europa League qui arriveront en 2021 sur Canal+. Et bien sûr, nos reportages et nos documentaires sport maison et nos émissions phares, le Canal Football Club, le Canal Rugby Club, le Canal Sport Club et la petite nouvelle Dimanche Soir Sport. Les séries, le label Création Originale, lancé il y a 15 ans, est devenu un pilier à part entière de Canal+, et un marqueur tant de notre exigence éditoriale en matière de fiction que de notre ambition consistant à hisser la qualité de la série française au niveau des meilleurs standards mondiaux. Le succès auprès des abonnés, de la critique, du public, des marchés internationaux et des festivals permet de faire de chacune de notre dizaine de créations originales par an un événement reconnu en France comme à l'international. Et enfin, dernier pilier, les documentaires. Avec la création documentaire, nous tentons de mettre à l'honneur des histoires et des causes fortes, comme avec Wonder Boy, nommé pour le César du meilleur documentaire en 2019, ou encore Energy Observer, qui traite sous un nouvel angle le grand danger du changement climatique. ce qui permet cette diversité et ce traitement éditorial au-delà du savoir-faire des équipes et ce qui rend la chaîne unique dans le paysage audiovisuel français, c'est son investissement inégalé dans la création, plus de 3 milliards d'euros au niveau du groupe et plus d'un milliard pour la seule chaîne Canal+. Tout cela sans compter sur nos investissements au service de l'innovation technologique et de la modernisation de l'offre télévisuelle qu'a rappelé Grégoire Castaing tout à l'heure. Nous croyons donc fortement à notre modèle. Il suffit de peu de gestes pour montrer que vous y croyez aussi, pour que l'histoire à part nouée entre Canal+ et les pouvoirs publics il y a 35 ans gagne une nouvelle actualité. Merci à vous.
J'avais compris que le directeur général complétait, non ? Non ?
Bon, dans la question.
Très bien, merci de cette présentation. Alors, je vais me tourner vers mes collègues, en commençant peut-être par Nathalie Sonnac.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci pour votre présentation, Monsieur Saada. Peut-être une question directement sur la transposition de la directive SMA et le régime de contribution à la production. Une première question sur quelles sont, vos attentes s'agissant de la modification à venir de la réglementation qui encadre à la fois les obligations de contribution à la production des SMAD. Peut-être une première question. Et en la généralisant, en disant notamment, êtes-vous favorable à d'autres évolutions législatives ou réglementaires applicables aux services linéaires ? Commencez par ces deux questions, Monsieur le Président.
Oui, merci Madame la Conseillère. Les attentes, je pense qu'on doit d'abord tous se réjouir de la transposition de la directive SMA et de la possibilité qui nous est offerte de faire contribuer les plateformes américaines au financement de la création et du cinéma et de l'audiovisuel français. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième chose, c'est que je trouve en revanche que si cette possibilité qui nous est offerte contribuera à financer la création, elle n'est en rien garante de la souveraineté culturelle et même le contraire. Elle accroîtra en réalité la dépendance du financement de la création française sur des plateformes étrangères qui n'ont pas vocation à contribuer au rayonnement de la culture française et européenne. Et donc je pense que dans ce contexte, il est essentiel de préserver les acteurs traditionnels, et en particulier Canal+, qui ont cette vocation, dont j'ai rappelé tout à l'heure le rayonnement à travers le monde désormais avec 20 millions d'abonnés sur 40 pays, et de nous laisser un avantage, des avantages, notamment sur la chronologie des médias, qui nous permettrait de tirer parti de cette différenciation. Notre souhait n'est pas de réduire nos obligations. Notre souhait est de maintenir un avantage compétitif. Parce qu'il faut éviter de prendre les consommateurs pour des crétins. Et si on leur demande de payer entre 20 et 40 euros, voire plus, il faut qu'il y ait des avantages concrets pour eux, et notamment en matière de chronologie des médias. Nos attentes concernant... on va nous demander sans doute de... on va nous demander même certainement de participer à ces discussions et d'œuvrer pour favoriser cette transposition et notamment de renoncer à certains avantages de Canal+, une fois de plus, j'ai envie de dire. Pour nous, il est important d'examiner de manière concomitante la nécessité de revoir à la fois non seulement la transposition mais également les décrets TNT et CAPSAT. Sinon, sans quoi on nous demanderait de renoncer à certains avantages potentiellement sans avoir aucune contrepartie avec la promesse éventuellement un jour. Pour nous, il est essentiel que ces éléments interviennent en même temps.
Merci beaucoup. Et du coup, peut-être que vous pouvez enclencher directement sur la chronologie, comment vous souhaiteriez et quelles sont vraiment les volontés de Canal, de votre positionnement dans cette chronologie, comparativement notamment, comme vous le disiez, aux plateformes américaines. Si vous me permettez, Monsieur le Président.
On n'est pas au bout de la réflexion, Madame la Conseillère, parce qu'on n'a pas... Encore, on ne nous a pas expliqué aujourd'hui quels étaient les souhaits des plateformes américaines, leurs attentes et comment est-ce que le CNC et les organisations du cinéma voyaient les choses. Je n'ai pas eu ces échanges. Donc je ne peux pas être plus précis que ça, si ce n'est de dire que je souhaite que Canal+, nous souhaitons que Canal+, conserve un avantage dans la chronologie des médias.
D'accord.
Un avantage qui soit suffisamment important pour qu'il soit perçue par le consommateur.
Merci beaucoup.
Jean-François Maury.
Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur le contenu de votre candidature, puisque vous nous avez expliqué de manière très claire les souhaits et véritablement les demandes qui revêtent un caractère pressant à vos yeux sur, je dirais, l'environnement législatif, réglementaire, fiscal. Mais ce matin, vous présentez une candidature, le renouvellement d'une candidature vis-à-vis de l'organe de régulation. Et comme l'on sait, nous avons entre vous et nous une convention sur laquelle, sauf erreur de ma part, vous n'avez exprimé aucune demande de modification. On a même pu avoir l'impression que vous trouviez ce texte tellement impeccable qu'au fond, il ne fallait rien y changer. Alors, néanmoins, bon, nous avons eu des relations sur l'application et la mise en œuvre de cette convention. Et donc, ma question est double. Pourquoi aucune espèce de demande de votre part, premièrement? Et deuxièmement, d'une manière plus générale, comment vous avez apprécié tout au long de ces années la nature des relations que nous avons eues s'agissant de l'application de cette convention?
Je vais commencer et je demanderai à mes collègues de compléter. Les changements qu'on appelle de nos voeux ne sont pas nécessairement couverts par la convention. C'est bien le sujet qu'on a.
Absolument.
La durée qu'on a évoquée, par exemple, ou les déclinaisons. Donc ça, c'est un élément de réponse. Il y en a un autre qui est que, honnêtement, les choses évoluent tellement vite que ce que je considérais vrai il y a un an et demi n'est plus nécessairement aujourd'hui. Et typiquement, le modèle des déclinaisons de Canal+ est en train de devenir un problème, et il y a un an et demi, ça ne l'était pas.
Et donc, ça devrait se traduire par une évolution de la convention?
Sans doute, oui.
D'accord. Je vous remercie.
Michel Leridon.
Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez parlé des plateformes, bien sûr, par rapport à la menace qu'elles constituent pour vous en termes concurrentiels. Mais est-ce que vous envisagez de développer des partenariats, des coproductions avec ces plateformes? Quel type de relation envisagez-vous avec ces grandes plateformes américaines, notamment?
On les aime beaucoup. On les aime beaucoup, on les critique assez peu d'ailleurs. On veut simplement être traité avec équité et que notre différence soit reconnue. Mais vous nous entendrez assez peu les critiquer et dire qu'il faut taper dessus, etc. C'est même le contraire. Puisqu'on a choisi de les agréger autant que possible, donc on a, vous le savez, signé un accord d'abord avec Netflix, puis un accord exclusif plus fort avec Disney. On a renouvelé au passage dans l'accord Disney la capacité pour Canal+ de diffuser les films Disney et Fox en première exclusivité. Nous sommes le seul opérateur mondial à avoir réussi cet exploit. Mais c'est un élément très important pour nous. Et il est probable que nous distribuerons d'autres plateformes américaines. Donc ça, c'est le premier type d'accord, accord de distribution et d'agrégation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que la priorité pour tous autour de cette table et au-delà, c'est l'abonné. Et l'abonné n'est pas très intéressé de savoir si les contenus sont disponibles chez un concurrent ou non. Il faut lui proposer les meilleurs contenus. Et donc, notre vocation, c'est de distribuer l'ensemble des autres disponibles sur le marché, y compris, si on y arrive, Téléfoot. En matière de production et de coproduction, nous faisons plus que l'envisager, nous l'avons lancé. Nous coproduisons avec Sky, d'ailleurs, depuis plusieurs années. On a fait les deux saisons de Tunnel, on a fait les Papes, les deux saisons du Pape, Young Pope et New Pope, on a fait Panthers avec Tahar Rahim, récemment 000 avec Sky Italia, et très souvent et de plus en plus avec les plateformes. 000, le troisième coproducteur, c'est Amazon. Vous avez vu un extrait tout à l'heure. Nous coproduisons actuellement une série qui est en tournage, écrite et réalisée par Julie Delpy à Los Angeles avec Netflix, On the Verge. Nous coproduisons avec Apple une adaptation d'une série que nous avions diffusée, proposée il y a quelques années, qui s'appelle Calls. Et nous coproduisons régulièrement avec HBO. Les Papes, également, d'ailleurs, étaient coproducteurs de Young Pope et New Pope. Et donc, nous avons, on peut le dire, travaillé avec tous et coproduirons avec tous. Et on se rend compte que c'est tout à fait possible, envisageable, et que même si on nous explique que le modèle est d'amortir des coûts sur une base mondiale, on trouve généralement, quand il y a suffisamment de valeur apportée, notamment par les équipes de la création originale de Canal+, sous la responsabilité de Gérald Brice, qui sont mondialement reconnues, la capacité pour nous de faire des exceptions, de les convaincre de faire des exceptions à leur modèle. C'est un moyen pour nous aussi d'augmenter le nombre de fictions, le volume, et qu'elles soient de plus en plus ambitieuses, puisque, comme vous le savez, les budgets ont une tendance à l'augmentation, là où on avait des budgets historiquement de 10 à 15 millions d'euros par série, on peut monter maintenant assez facilement à 50, voire plus.
Carole Bien-Aimée Besse.
Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre présentation. Moi, je voulais revenir sur, justement, la coproduction, les créations originales. Est-ce que, finalement, les accords professionnels qui prévalent aujourd'hui vous permettent, finalement, d'aller au bout de ce que vous souhaitez faire en termes de volume, au niveau artistique également, et peut-être plus particulièrement aussi sur parce que vous avez parlé beaucoup de fiction, de documentaires, et sur l'animation, puisque vous êtes très présent, voir effectivement sur l'offre jeunesse, si effectivement ces accords professionnels peuvent répondre aux attentes, ou s'il faudrait les faire évoluer pour pouvoir notamment rayonner plus largement à l'international et autres. Merci.
Sur la première, je vais répondre et puis je laisserai compléter par Gérald Brice-Viré et Pascal Ingenest. La réglementation actuelle n'est pas satisfaisante pour le groupe Canal+, parce que nous finançons la vaste majorité, la quasi-totalité des budgets des séries que nous lançons avec des producteurs indépendants. Je précise d'ailleurs que quand Canal+ ne croit pas à un modèle d'intégration verticale à outrance qui est pratiqué par la plupart de ses concurrents. C'est aussi une singularité. Nous sommes absolument convaincus que la richesse et la diversité de ce que nous proposons passent par la production indépendante, que ce soit cinématographique ou audiovisuelle. Mais vraiment fermement convaincus. Nous travaillons chaque année en cinéma avec près de 100 sociétés indépendantes. Et en série, sur la quarantaine de séries produites par Canal+, il y en a 3 qui ont été produites en interne. Sur les 12-13 projets qui sont actuellement en développement dans les équipes de Gérald Brice-Viré, il y en a 2 qui sont envisagés avec le groupe, en prenant en compte toutes ses filiales. Et toutes les séries à l'antenne cette année seront des séries produites par des indépendants. Toutes. Donc il n'est pas question pour nous de mettre en danger, de mettre à mal la production indépendante, bien au contraire. Et nous avons toujours indiqué que nous étions prêts à prendre des engagements spécifiques sur ce volet-là. Mais on a un sujet patrimonial qui pose problème, non pas pour le plaisir de posséder, mais c'est parce qu'il nous pose problème d'un point de vue exploitation. D'abord en France, puisque, vous le savez, nous achetons des droits linéaires et délinéarisés, qui arrivent au bout d'un moment à expiration, pour une durée relativement courte. Ce qui peut nous mettre dans la situation dans laquelle on s'est déjà trouvé avec Gérald Brice, c'est assez pénible pour nos abonnés et pour lui, à titre personnel, parce qu'il a dit il y a passé des mois, perdre des saisons précédentes de séries toujours disponibles sur MyCanal ou Canal Plus à la demande. On s'est retrouvé dans cette situation sur le Bureau des Légendes où au moment de la proposition du lancement de la saison 4, on n'avait plus la saison 1, ce qui est incompréhensible pour nos abonnés, surtout quand on a des concurrents comme les plateformes américaines qui proposent l'intégralité de leur série. Ça, c'est le premier problème, donc c'est un problème en France. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle de Canal+ viable à long terme si nous ne sommes pas capables d'amortir des coûts de contenu sur une base mondiale comme le font tous nos concurrents. Si on considère qu'en fait la production française doit être amortie dans sa totalité sur le marché français et n'a aucune vocation à s'exporter ou à être amortie sur des marchés autres que la France, on n'y arrivera pas. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette capacité parce que nous n'avons pas ces droits. Ce qui veut dire que quand on va aux États-Unis et qu'on regarde, comme je l'ai fait moi à l'aéroport de Los Angeles, ma voisine regarder Versailles et se régaler sur Versailles et que je lui demande sur quelle plateforme elle voit ça, elle me dit « It's a Netflix original », ça fait mal. Surtout quand on a investi près de 15 millions d'euros dans cette série, comme je le disais, la majorité du financement. On nous parle d'ailleurs d'un financement qui n'est pas majoritaire, enfin qui est toujours majoritaire, mais pas nécessairement 100%, en nous citant le CNC qui contribue évidemment largement également au financement. Je rappelle que nous sommes le premier contributeur au CNC avec 70 millions d'euros par an à peu près d'obligations, de taxes. Je te laisse compléter, Gérald.
Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que les accords interprofessionnels ne sont pas du tout et plus du tout adaptés puisque l'usage a changé. Nous restons principalement une chaîne linéaire, vous le savez, et je vais prendre l'exemple d'Engrenage. Nous diffusons en septembre la 8e saison d'Engrenage. Il serait impensable de ne pas proposer les saisons précédentes à nos abonnés. Et c'est vrai qu'on a été confrontés, dû aux accords professionnels, à plusieurs reprises, au fait de pouvoir perdre les saisons précédentes et de ne pas pouvoir avoir une partie de la propriété, non pas pour prendre tous les droits, mais pour partager avec des producteurs indépendants, à la fois pour la France, on le voit bien dans la durée, puisque une série comme Engrenage, c'est plus de 10 ans, c'est la série la plus ancienne d'ailleurs de la création originale, et c'est très important de pouvoir aussi assurer notre développement international. Et c'est le même phénomène pour l'animation, puisque nous sommes aussi un intervenant important dans l'animation, que ce soit pour Canal+, Canal+ Family, pour Télétoon et Piwi+. Et nous avons aussi un problème de partage des droits. Quand nous n'avons que 36 mois de droits, à peine le temps de faire la promotion du programme et nous n'avons plus les droits. Tandis que face à nous, nous avons des plateformes qui prennent aisément 10 à 20 ans de droits. Donc aujourd'hui, il faut remettre à plat ces accords interprofessionnels parce que c'est vrai que les usages ont changé. On est une chaîne linéaire et on a un aspect serviciel très important. On ne peut pas imaginer, il y a 4 ans c'était possible, aujourd'hui ça ne l'est plus, de plus avoir les saisons précédentes quand on arrive avec la nouvelle saison d'une marque forte de Canal+.
Pour illustrer ce que Maxime et Gérald Brice viennent d'évoquer, j'ai dit tout à l'heure, on vient d'acquérir M7, il y a un peu plus d'un an. C'est une opportunité unique pour un acteur français d'être d'un coup sur 7 pays en Europe. Quand on fait le constat des synergies de programmes possibles avec cet acteur, à ce stade, nous n'avons aucun droit à leur proposer sur toutes les créations originales qui ont été produites par Canal au cours de ces 10 dernières années. Donc on voit bien la difficulté pour un acteur français, alors qu'on a fait cet investissement, alors qu'on a cette opportunité, à exporter dans la réglementation actuelle les contenus qu'on a pu financer.
Pour compléter ce qui vient évidemment d'être dit, évidemment que ces accords professionnels devront être vus au regard éventuellement d'une évolution réglementaire, puisqu'aujourd'hui, il y a forcément un lien entre la réglementation en vigueur et ces accords. Voilà, je voulais apporter cette précision.
Merci beaucoup.
Hervé Gauthier.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur les coûts de diffusion. J'ai bien entendu vos propos sur les coûts de diffusion versus revenus par abonné TNT. Sachant que le cahier des charges de cet appel à candidature porte sur un taux de couverture sur 1136 sites, je voudrais savoir, au-delà des obligations posées par cet appel à candidature, comment est-ce que vous voyez l'avenir du taux de couverture de Canal+, l'avenir du multiplex R3, est-ce qu'il aurait vocation à rester en l'état avec les obligations de couverture inhérentes au fait que vous avez sur ce multiplex une chaîne en clair, gratuite? D'une manière générale, comment est-ce que vous voyez, selon le bon vieux principe qu'il est compliqué d'appuyer sur un accélérateur et sur un frein en même temps, comment est-ce que vous voyez la modernisation de la TNT avec les services associés qui peuvent y être ajoutés? Merci.
Je voudrais moi simplement vous féliciter parce que vous avez souligné que les chaînes en clair de Canal+ étaient gratuites, comme ce sont pratiquement les seules du marché aujourd'hui à le rester. Vous aviez raison de souligner cet élément important. Je laisse la parole à Grégoire pour répondre.
Sur le taux de couverture, évidemment, aujourd'hui, vous l'avez dit, l'obligation est à 95, on est à 97. Donc déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle mesure Canal+ pourrait s'en tenir à l'obligation. C'est compliqué puisqu'on parle d'un taux de couverture pour la population, alors qu'il faut mettre ça en adéquation avec un nombre de sites. Donc évidemment, il y a toujours en plus une difficulté à coller au pourcentage près, mais ça prouve aussi, la rigidité de la réglementation et les assouplissements possibles à l'avenir. D'autant que cet enjeu de taux de couverture, évidemment, il va être chamboulé avec le plan fibre, le plan haut débit, avec sans doute la 5G, qui apporterait des promesses de diffusion de contenu. Et donc tout ça, évidemment, de notre point de vue, doit être revu dans le temps. Quant à l'avenir du multiplex R3, c'est difficile, là encore, de faire des plans à court terme. Tout dépend de l'évolution de cette réglementation. Et je précise aussi que sur le taux de couverture, nous avons déjà aujourd'hui une alternative avec le satellite. Nous couvrons 100% de la population. Là encore, ça prouve une des limites de la TNT par rapport à d'autres modes de diffusion, et en particulier le satellite, qui permet avec un seul satellite de couvrir 100% de la population en métropole.
Et concernant la modernisation de la TNT ?
Je pense qu'on sera très 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 attentif d'abord à vos décisions en termes de normes et de ce qui peut être fait pour l'avenir. Nous, il faut savoir que au-delà du téléviseur, pour qu'il soit compatible à ces nouvelles normes, il faut que nous adaptions tout notre pack de décodeurs en TNT. Donc c'est important qu'on se voit bien avec un planning dans le temps, parce que c'est vrai qu'il y a un problème économique de coût de diffusion. Donc je vois dans votre question la problématique de l'ultra HD. Aujourd'hui, nous avons développé sur l'OTT, sur le satellite ou la DSL, de l'ultra HD, puisque nous sommes déjà en HEVC, et avec un mode de modulation adapté pour cela, pour être en diffusion et des coûts vraiment petits. Et donc aujourd'hui, sur la TNT, on sera aussi très concentré sur ces coûts, sachant que si la norme DVB-T2 HEVC était choisie, il faudrait voir, nous aussi, l'impact que ça aura sur le changement de pack de décodeur qui est aujourd'hui uniquement HD. Quant à la diffusion de nos programmes, nous avons déjà une très bonne partie de nos programmes qui sont en 4K. Je rassure nos abonnés, tous les prime time sont déjà en ultra HD.
Et sur la modernisation de l'expérience utilisateur, on voit bien la schizophrénie dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des contraintes que j'ai évoquées sur, par exemple, les disques durs, qui est sincèrement absurde, la difficulté, c'est que pour améliorer l'expérience d'un utilisateur TNT, en réalité, il faut le connecter, connecter son décodeur à Internet. Et donc, quel est l'intérêt pour un utilisateur aujourd'hui d'aller plutôt sur la TNT lorsqu'il a le débit suffisant et qu'il souhaite connecter son décodeur à la DSL ou à la fibre ? Toute la difficulté qu'on peut avoir.
L'intérêt, on ne va pas lancer un débat technique maintenant, mais l'intérêt, il est simple, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui ont Internet sans avoir forcément le très haut débit.
Oui, bien sûr, mais là encore, si on veut que l'expérience soit comparable, il faut quand même qu'il puisse connecter son décodeur avec un débit suffisant. Alors après, vous avez raison, aujourd'hui, parmi nos abonnés TNT, il y en a encore à peu près 30% qui sont en zone blanche et qui n'ont pas accès à Internet. Et donc, pour qui il est très difficile d'améliorer l'expérience utilisateur.
Nicolas Curien.
Peut-être une question en travelling arrière pour faire écho aux propos liminaires du président Sada. Au fond, cette décision d'être candidat sur la TNT, comment s'inscrit-elle dans la stratégie globale du groupe en matière d'évolution des audiences sur les différentes plateformes, satellites, CAPSAT, TNT? Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que la décision d'être finalement candidat résulte d'une réflexion avec des stratégies éventuellement alternatives sur cette politique commerciale globale?
Ça s'inscrit dans notre stratégie parce qu'on a, comme on l'a évoqué, une composante fondamentale de notre modèle qui est cette notion d'ancrage. Et on ne peut pas être plus ancré qu'en ayant une fréquence TNT, je pense. Le deuxième élément important, c'est qu'on a 400 000 abonnés. Certes, c'est peu, mais c'est 400 000 abonnés. Et donc, la stratégie alternative, pour nous, ça serait d'envisager la migration de ces abonnés sur d'autres plateformes, qui est un chantier que je connais bien. À titre personnel, je l'ai fait deux fois au cours de mes années chez Canal+. J'étais responsable de la migration des abonnés de TPS à Canal, SAT, 1 300 000 paraboles, à réorienter de quelques degrés, ce qu'on a réussi à faire pour les 1 300 000, mais c'est un vaste chantier. Et on l'a fait une deuxième fois pour les abonnés analogiques, qu'on a migrés sur la TNT. Beaucoup plus compliqué d'ailleurs. On avait dû s'appuyer sur la poste, notamment pour les derniers, pour les convaincre, les facteurs. Mais néanmoins faisable. Donc la stratégie alternative, c'est celle-là, c'est de s'employer à mettre en place une migration massive de ses abonnés sur des plateformes alternatives, et avec la complexité qu'on vient d'évoquer, qu'il vient d'évoquer Grégoire Castaing, qui est qu'il y en a un certain nombre qui sont en zone blanche. Et donc il faudrait nécessairement migrer sur le satellite, sans doute, pour qu'ils aient une expérience de télévision correcte.
Jean-François Marie.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais revenir sur la question des rapports entre les textes réglementaires, les accords professionnels les relations donc que vous avez avec le régulateur. Pour demander deux petites choses. La première, c'est bon, nous avons déjà eu des discussions très amples sur ce sujet, mais quelles sont pour vous, je dirais, vos priorités de ce point de vue-là? Et sachant que dans la vie, il faut toujours un peu choisir. Et deuxièmement, une deuxième question, là, qui est plus précise. Vous avez effectivement évoqué ces exemples, au fond, où vous voyez, au fond, dans un avion, votre copassagère regarder un film sur. Bon, et se féliciter de ce qu'elle peut voir ça sur Netflix ou telle plateforme. Est-ce que vous pensez que, sans décret, sans accord professionnel, dans la compétition qui est la vôtre aujourd'hui, notamment vis-à-vis des plateformes, ça ne vous conduirait pas à dépenser infiniment plus d'argent pour récupérer des droits que ceux dont vous disposez actuellement? Donc au fond, est-ce que même la question serait finalement tellement simplifiée si vous pouviez vous débarrasser de ces fichus accords professionnels?
Merci, monsieur le conseiller. Alors, on ne veut pas se débarrasser des accords professionnels, on veut les revoir. Je pense qu'ils sont nécessaires.
Pardonnez-moi.
Je vais répondre à votre question sur les priorités. Elles sont de trois ordres. Je crois qu'on l'a dit amplement. C'est la première, c'est la fiscalité. Le deuxième, c'est le piratage, en réalité. Et nous sommes, j'ai envie de dire, militants sur ce sujet, parce que nous considérons qu'il y a une destruction de valeur pour l'ensemble de l'industrie, qui ne fait que s'amplifier. On a cité le chiffre de 11 millions tout à l'heure, mais ça, c'était pré-confinement. Et malheureusement, dans ce secteur, les habitudes se prennent. Et elles se perdent beaucoup plus difficilement. Et nous craignons que, par exemple, l'arrivée de Téléfoot avec un prix de 25 euros ne favorise le piratage dans le domaine du sport. Et qu'on aura encore à gérer ces nouvelles populations-là. C'est d'autant plus frustrant pour nous que le dispositif qui avait été mis en place sous la houlette de Aurore Berger et recommandé dans l'audiovisuel nous allait parfaitement, y compris celui qui est consistant à renforcer les pouvoirs de votre autorité dans ce domaine, ce que nous appelons vraiment de nos voeux. Et donc j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec la ministre de la Culture récemment, et elle le sait, et pour nous c'est vraiment une priorité, et je crois qu'elle en a compris l'importance. Je sais qu'elle en a compris l'importance. Et le troisième sujet, c'est donc celui des droits audiovisuels, sur lequel je ne vais pas revenir. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, mais là, vraiment, vous avez les trois priorités du groupe Canal+. Votre question sur l'argent, j'ai envie de dire, on ne demande que ça, nous. Aujourd'hui, on investit un peu moins de 100 millions d'euros dans les fictions françaises via directement Canal+, pour la création originale. Ça devrait être le double. On était les premiers à lancer de la fiction ambitieuse. Gérald Brice l'a rappelé, en Grenage. C'est 2006, c'est 15 ans. Et on a investi entre 60 et 70 millions pendant des années, et on est aujourd'hui à plus, mais on devrait vraiment faire le double. Ce qui nous a convaincus de ne pas le faire, c'est ce sujet des droits, en fait, parce que ça ne serait pas encore rationnel. Et donc on a, à l'inverse, multiplié les investissements et pris des participations ou créé des sociétés à l'étranger pour pouvoir bénéficier des droits des séries que nous finançons en Angleterre, en Scandinavie, en Allemagne, etc.
Et la bonne façon de le financer, c'est de l'amortir sur plusieurs territoires. Et comme on l'a dit, on a la chance aujourd'hui d'être dans 40 pays. Donc on a à notre disposition ce marché. Maintenant, il faut qu'on puisse exploiter ce marché pleinement.
Il n'est pas question pour nous de spolier la production indépendante, parce que je comprends qu'un producteur, c'est le fruit de son travail. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Gérald Brice. Il n'est pas question pour nous de s'accaparer tous les droits. Il est simplement pour nous nécessaire d'amortir nos investissements sur une base multiterritoire.
Nathalie Sonac.
Merci beaucoup dans le prolongement des obligations du soutien à la création des relations dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle. Peut-être un petit zoom sur la production audiovisuelle. Donc, il y a des accords effectivement interprofessionnels avec lesquels vous avez signé. Dans la perspective de la future convention, parce qu'on se place tout de même ici dans cette perspective-là, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les relations que vous avez aujourd'hui avec les producteurs audiovisuels? Est-ce que vous voyez une évolution possible dans l'assiette de contribution en raison peut-être des possibles divergences? C'est une question. Et sur quel aspect justement de la contribution au financement de la production audiovisuelle vous souhaiteriez voir évoluer la convention?
Effectivement, en fait, tout est lié puisque nos accords sont en partie transposés dans la réglementation. Donc, techniquement, il faut qu'on fasse soit évoluer les accords pour qu'on transpose et que ça serve d'assouplissement à la réglementation, soit on fait l'inverse. Et aujourd'hui, on est bloqué d'une certaine manière, puisque sur certaines questions, notamment cette question des droits, il y a un blocage, on peut le dire de cette manière-là, je pense, entre nous et les producteurs qui restent sur une position très ferme sur leurs droits, alors que nous avons une position très ferme sur le fait que nous souhaitons un élargissement de ces droits. Donc, effectivement, si un accord professionnel sur ces questions-là, si c'est une situation de blocage, il faut que les pouvoirs publics, en revanche, nous aident sur la réglementation.
Une manière de nous aider était d'ailleurs ce qu'avait proposé le ministre de la Culture, Franck Riester, de changer éventuellement le taux d'indépendant, ce qui n'est pas notre souhait, mais au moins ce qui pouvait conduire chacune des parties à venir discuter de manière un peu plus volontariste, puisqu'on a quand même, avec Pascaline, réussi à signer, enfin moi, elle en a signé beaucoup plus que moi, mais moi j'en ai signé deux des accords cinéma avec elle. En audiovisuel, on a essayé pendant 4 ans, on n'a pas réussi. Non, si, on a essayé de modifier, il y a des accords.
Si, il y a un accord de 2009.
Et notamment un accord... Et notamment un taux pour Canal+, qui est le plus élevé d'indépendants, 87,5 personnes n'a ce taux. On l'a toujours dit, on n'appelle pas nécessairement de notre vœu à ce que ce taux baisse. Nous, notre sujet, c'est un sujet patrimonial et droit. Mais encore une fois, je le répète, nous sommes convaincus que le modèle d'avenir pour nous, c'est un modèle de financement de la production indépendante. Et d'ailleurs, quand je disais pas spolier, juste pour être plus précis, contrairement à ce qui est pratiqué par d'autres, nous, le modèle que nous envisageons, si on parvenait à avoir des droits, c'est un modèle de partage des recettes avec le producteur. C'est très important. Il n'est pas question pour nous, encore une fois, de garder les recettes. Ce n'est pas tant le sujet des recettes, c'est vraiment le sujet de l'exploitation sur une base mondiale.
Michel Léridon.
Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. La première, vous parliez des fondamentaux de Canal+, et dans la marque de fabrique de Canal+, à ses origines, puisque il y avait notamment les plages en clair qui constituaient une locomotive pour le programme. Je voudrais savoir quelle est aujourd'hui votre stratégie en la matière. Est-ce que vous envisagez de modifier la part des plages en clair dans votre programmation et comment vous mesurez l'impact de ces plages sur l'économie générale de la chaîne? Et ma seconde question, porte sur le comité d'éthique que vous mentionnez en page 24 de votre candidature. Ce comité d'éthique, en réalité, a été amené à intervenir sur Canal, proprement dit, seulement une fois, dans l'année 2018, sur un reportage sur le Togo. Il est intervenu sur une autre chaîne qui ne nous concerne pas aujourd'hui, qui est CNews. Quel bilan tirez-vous de l'activité de ce comité d'éthique? Je vous remercie.
Merci Madame la Conseillère. Je vais d'abord répondre à votre première question. C'est vrai qu'on a été à la croisée des chemins à un moment quand il fallait faire des choix. Est-ce qu'on était là pour faire des émissions en clair, donc aller chercher de la publicité, ou plutôt se recentrer sur nos abonnés, sachant qu'il y a aujourd'hui plus de 20 chaînes gratuites sur la TNT, et sans parler des 200 services qui sont proposés sur la DSL. Donc, et Maxime vous le confirmera, mais nous n'avons jamais vu effectivement un lien entre des prospects ou des téléspectateurs qui venaient sur le clair et qui s'abonnaient dans la foulée. Donc nous avons recentré notre travail sur les abonnés. Il fallait faire des économies et nous avons travaillé pour avoir la meilleure offre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde n'en doute pas ici que nous avons la meilleure offre cinéma de France. Nous avons une offre de fiction originale que vous connaissez qui est la plus à la pointe, puisqu'on est capable d'avoir de faire le Bureau des légendes où je vous conseille la nouvelle création La Flamme que certains ont pu voir en avant-première hier. Et donc nous sommes légitimes sur le cinéma, sur la fiction, sur les acquisitions de séries, sur les documentaires, sur les spectacles, et nous sommes recentrés, notamment avec le sport. Nos émissions de sport sont aujourd'hui les premières en termes de légitimité en France. Nous sommes recentrés sur nos piliers. Nous ne reviendrons pas sur l'autorisation de Claire que nous avons, puisque nous l'utilisons régulièrement, et nous avons décidé de nous ancrer avec une émission d'information de très grande qualité qui est portée par Yves Calvi et qui est produite par Jérôme Bellet et qui aujourd'hui, en termes de satisfaction auprès de nos abonnés, fait partie des trois émissions les plus appréciées. Après notre audience, aujourd'hui, nous la calculons comment ? Nous la calculons auprès de nos abonnés. Quelle audience Canal+, le bouquet, avec ses 6 chaînes, fait auprès de nos abonnés ? Nous faisons en moyenne, alors selon les semaines et selon le fait que nous ayons des événements sportifs, hors Covid, nous sommes à 10% d'audience dans les foyers français quand un foyer est abonné à l'offre Canal+. Ça veut dire que nous sommes le premier, le deuxième, le troisième choix. Donc aujourd'hui, nous investissons d'abord sur nos piliers, mais nous ne revenons pas sur notre capacité de faire plus ou moins de clair, tel que c'est édicté dans notre convention actuelle. Deuxième question sur notre comité éthique. Nous avons un comité éthique de grande qualité avec Brice Charles, magistrat, Sabine Bourget, auteur et antiquaire, Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuel et du Women's Forum Publicis, Laurent Lemel, ex-premier avocat général de la Cour de cassation, et Richard Michel, qui nous a rejoint cette année, qui est un journaliste d'ailleurs, qui était au départ de la création de ITélé, qui est l'ancien président de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Au-delà du reportage que vous avez évoqué, Maxime a souhaité rencontrer très régulièrement le comité éthique et nous a demandé de travailler régulièrement sur différents dossiers, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la rédaction des sports, le traitement des sports, l'application des chartes que nous avons signées avec la Société des journalistes en 2018 de la rédaction des sports et des rédactions de CNews. Donc il y a un vrai travail de fond. Et je pense que nous avons un des comités éthiques les plus actifs du paysage audiovisuel et qui est extrêmement demandeur d'avoir justement un échange avec les équipes, notamment quand il s'agit de traiter du Covid et comment les équipes aussi sur le terrain, notamment journalistique, ont pu traiter, à mon avis, extrêmement bien la Covid en France. Donc vraiment, un gros travail qui est fait avec le comité éthique et vous allez avoir dans le bilan toutes les différentes réunions qui ont eu lieu au cours de l'année.
Carole Bien-Aimé-Bess.
Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur vos créations, vos abonnés, et effectivement, le fait, finalement, qu'elles soient vues par le plus grand nombre. Peut-être faire un point avec vous sur où vous en êtes du côté de l'accessibilité, de l'audiodescription, Parce qu'effectivement, au niveau technique, les choses ont changé. Donc, l'audio description basique et son amélioration, puisque c'est vrai que les retours qu'on peut avoir, mais globalement, hein, au niveau du paysage audiovisuel et pas proprement parler Canal+, finalement, d'une qualité qui ne serait pas très bonne. On sait que vous êtes très attaché à l'exigence de vos créations. Donc, justement, est-ce que vous mettez en place une écriture particulière pour, justement, faire en sorte que l'audio description soit au bon niveau. Savoir aussi si, au niveau de la LSF, qui est une langue de France à part entière, et vous parliez effectivement du nombre de pays dans lesquels vous étiez effectivement très actif. Donc, est-ce que là aussi, vous souhaitez peut-être amplifier, faire en sorte que la LSF soit peut-être généralisée ? Voilà, je voulais un peu avoir des précisions, effectivement, puisqu'il y a un impact au niveau de la convention. On est à un certain niveau aujourd'hui, mais je pense que l'idée, c'est évidemment de faire toujours un peu plus et permettre effectivement au plus grand nombre de vos abonnés de pouvoir recevoir vos programmes dans les meilleures conditions possibles.
Je vais laisser Gérald Brice-Viret donner l'essentiel de la réponse. Sur l'accessibilité, on n'est pas exactement là où on voudrait qu'on soit, en général. Et on a une difficulté technique, en réalité, qui est que Canal+ est disponible sur tellement de plateformes, via tellement d'opérateurs, tellement de box différentes, avec des logiciels différents, que c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais au départ. Néanmoins, j'espère faire de grandes annonces avant la fin de l'année, notamment sur les sous-titres... à la fois pour les programmes étrangers, pour les programmes français, sur l'ensemble des plateformes, c'est un vrai sujet pour nous. Et on a engagé un chantier majeur il y a 2 ans déjà, donc j'espère qu'il aboutira avant la fin de l'année. Je vais laisser Gérald Brice-Viret compléter plus précisément sur les questions que vous posez.
Effectivement, c'est un sujet important pour nous. Donc évidemment, on entend poursuivre nos engagements majeurs par rapport à ce que nous avons souscrit. Nous avons permis à nos abonnés d'avoir 8000 heures de programmes en accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes sur Canal+, donc c'est 60% du temps de diffusion qui est pris en compte par le calcul de cet engagement conformément aux critères fixés par le CSA. Et puis vous le savez, dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de Canal+ Cinéma, le groupe avait augmenté ses engagements concernant l'accessibilité des contenus pour porter le volume minimum des programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes de 40 à 50%. Et puis aussi, dans le cadre de la procédure de renouvellement, Canal+ a pris de nouveaux engagements au-delà des 2 déclinaisons concernées, comme on faisait progresser de 20% le minimum de programmes inédits proposés en audio-description sur le service pour les rendre accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes par des dispositifs appropriés, donc soit 120 programmes contre 100 précédemment, et le chiffre réel pour l'année 2019 a été de 269 programmes. Donc nous sommes bien au-delà de notre obligation, car nous pensons que c'est très important aussi pour nos abonnés d'avoir l'intégralité de nos créations originales, et notamment aussi le cinéma.
Merci.
Hervé Gauthier.
Merci, Monsieur le Président. J'ai une autre question. En fait, dans la droite lignée de ma première question sur l'aspect couverture territoriale, vous connaissez notre attachement au CSA à la continuité territoriale, et j'aurais voulu savoir quelle est votre stratégie et quelle est l'offre aujourd'hui et l'offre prévisible de Canal+ en ce qui concerne les Outre-mer dans l'accès à Canal, mais aussi éventuellement dans les contenus, puisque c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, notamment depuis la fin de François.
En fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
Nous sommes dans la continuité totale du service de Canal+ dans les Outre-mer, que ce soit à travers nos services linéaires ou que ce soit à travers nos services non linéaires avec notre interface MyCanal. Donc Canal+ International s'occupe de nos territoires d'Outre-mer et ils ont les mêmes émissions avec en plus des programmes spécifiques selon les régions, que vous soyez aux Antilles ou vous soyez en Océanie.
Les Outre-mer sont un élément absolument essentiel du modèle de Canal+. Donc il est impossible pour nous d'envisager autre chose que d'avoir le meilleur service possible pour ces territoires, le plus complet.
Nous sommes même sur certains de ces territoires, en particulier aux Antilles et à La Réunion, opérateurs Internet. Donc nous pouvons aujourd'hui proposer avec le déploiement de la fibre sur ces territoires, une offre complète à nos abonnés.
Avec une pénétration très très forte du satellite, si vous connaissez les régions, nous avons permis aussi Canal+, à nos habitants d'outre-mer d'avoir accès à beaucoup plus de chaînes qu'auparavant, puisqu'il y avait uniquement les chaînes hertziennes et TNT aujourd'hui à travers un multiplex.
Aussi du point de vue de l'investissement dans la production de programmes intéressant les collectivités ultramarines.
Oui, c'est la deuxième partie de ma question, effectivement. Merci Nicole.
Oui, nous avons gardé les 3%, notre obligation de 3% de production locale, que nous continuons à appliquer, bien sûr.
Production et chaîne locale, puisque nous diffusons aussi les chaînes locales.
Et nous avons fait une création originale en Guyane, comme vous le savez, qui s'appelle Guyane. Et on a fait énormément travailler des personnes qui étaient sur place, et on a permis à la première sur place de pouvoir co-diffuser avec nous sur la région de Guyane. Donc on est vraiment de tout cœur. Et si on peut en faire d'autres par la suite, nous sommes totalement ouverts. Message passé aux autres régions.
Nathalie Sonac.
Une question sur le modèle de distribution. Vous avez beaucoup expliqué, exposé l'évolution en 5 ans hein, du groupe Canal. Et c'est notamment, je reviens sur la modalité distribution. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un service autodistribué? Est-ce que la partie autodistribution... elle est moins présente, mais comment vous la considérez-vous
elle est pas moins présente. En fait, Canal+ a un seul modèle, c'est celui d'être autodistribué. On considère que c'est un élément essentiel dans lequel on a d'ailleurs été suivi par l'ensemble de nos concurrents, puisqu'à un moment, il était décrié. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de se généraliser, et en particulier les plateformes américaines qui captent, en fait, en réalité, directement la totalité de la relation avec leurs clients, y compris quand elles sont disponibles sur d'autres plateformes, que ce soit les opérateurs télécoms ou Canal. Donc, pour nous, il est essentiel d'avoir cette relation directe pour maîtriser vraiment notre modèle économique. C'est le seul moyen, en réalité, c'est un lien direct avec le financement de la création, de maîtriser en particulier nos tarifs, pour donc contribuer au financement du cinéma et de l'audiovisuel et du sport.
Merci beaucoup.
Michel Léridon.
Merci beaucoup. Vous l'avez largement évoqué dans votre candidature, mais est-ce que vous pourriez nous développer un point sur les droits sportifs, sur ce que vous avez déjà acquis, sur les appels d'offres à venir en la matière? Je vous remercie.
Les appels d'offres à venir, ça va être compliqué.
Ah oui.
Les montants, oui, c'est ça, les montants, oui. Les échéances. Non. Nous sommes déterminés à continuer à proposer des compétitions très attractives dans le domaine du sport. Et nous avons pris des engagements long terme, d'ores et déjà, dans le rugby, par exemple, où nous allons sur un droit jusqu'en 2027. Nous avons des discussions aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'ayants droit suite à la crise sanitaire. Et parmi les discussions que nous avons, il y a des sujets d'extension de la durée de ces droits. Vous le savez, nous avons pris on nous donnait sortant de la Ligue 1, on est revenu, j'ai envie de dire, par la fenêtre. Nous avons un engagement aujourd'hui supérieur à 300 millions d'euros pour 4 ans. Nous avons renouvelé plusieurs fois nos accords avec la Première Ligue. Nous avons pris deux fois des renouvellements de Formule 1. Nous avons pris récemment un engagement pour la moto GP, qui est en train de devenir un phénomène sur Canal+, avec des Français qui sont au top sur les podiums. Nous avons renouvelé récemment nos droits sur le golf pour longtemps, dans une grande partie de nos abonnés qui sont passionnés de golf. Nous avons un engagement dans le domaine de la boxe également, qui est longue durée. Et puis, nous avons tous nos investissements sur les émissions. Je le disais tout à l'heure, le Canal Football Club, que Gérald, comme il n'en avait pas assez, il a décidé d'en faire deux. Le Canal Rugby Club, qui fait une rentrée exceptionnelle. Nous avons lancé ce nouveau rendez-vous que j'évoquais, Dimanche Soir Sport, qui est notre premier magazine sport généraliste. En réalité, on n'avait jamais fait ça, je crois, Gérald. Donc nous avons un attachement profond et nous considérons que la rédaction des sports de Canal+ fait un travail absolument exceptionnel. J'ai pas cité les documentaires Sport Reporter ou Intérieur Sport, mais qui sont vraiment reconnus par nos abonnés. Donc pour nous, c'est un élément essentiel de notre dispositif et très importante dans la compétition qui perdure. Une des questions qu'il faudrait se poser, mais elle est compliquée, c'est de même qu'il y a un dispositif qui vise un peu ça sur la TNT, qui vise même complètement ça, la capacité qu'aurait la France à réserver une partie des droits sportifs, une partie, je dis bien, considérée comme essentielle à des acteurs, si ce n'est français, au moins intra-européens. Parce qu'on a vu qu'on n'est quand même pas passé loin pour la Ligue 1 de passer complètement sous pavillon étranger, extra-européen. Et c'est un danger qui nous menace à chaque appel d'offres. En tout cas, notre engagement est important et il s'inscrit dans la durée.
Et pour compléter...
Y compris, pardon, je vole une question de Nathalie, sans doute sur le sport féminin et sur les commentatrices.
C'était exactement l'objet de mon intervention, vous dire qu'on était, vous savez, le groupe extrêmement partie prenante dans le football féminin, notamment. On regarde aussi ce qu'on pourrait faire au niveau du rugby. Et comme le disait Maxime, nous avons une rédaction au sport vraiment de très grande qualité, dont nous avons 50% d'expertes. Dans le sport, 50% d'experts. Et je peux assurer aujourd'hui que nous avons la rédaction vraiment dans une parité totale sur les sports, et ce qui nous permet de dire que nous avons la meilleure rédaction sportive de France.
Voilà. On peut même dire d'Europe, mais on a à peu près trois quarts des émissions qui sont présentées par des femmes, non pas parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles sont meilleures. Et donc sur le football féminin, Thierry Schellmann, qui est le patron des sports de Canal+, a lancé la diffusion du football féminin il y a fort longtemps sur D8. Et nous avons souhaité diffuser cette compétition le dimanche soir, en prime. On aura plusieurs primes cette année, avec un dispositif tout à fait comparable à ce qu'on fait sur la Ligue 1. Hein, je parle sous ton contrôle, Gérald, mais un dispositif tout à fait comparable à ce qu'on fait sur la Ligue 1. Donc c'est un élément essentiel, on y croit beaucoup. On était d'ailleurs candidat, je vais vous révéler un secret, sur un appel d'offres pour la Coupe du Monde féminine, qu'on a raté, mais on était candidat. Donc voilà, on y croit énormément. Oula.
Bizarre. Étrange. Mes chers collègues, on arrive au terme de cette audition. Est-ce que vous avez encore des questions à poser ? Parole bien aimée baisse, je le sens.
Dernière pour la route, pardon. Mais dans la lignée de la précédente, effectivement, sur les engagements pris, il y en a certains que l'on connaît, notamment contre le harcèlement et aussi en termes de droits des femmes dans vos fictions. Je sais que vous avez fait pas mal de choses, et peut-être nous le redire, notamment vis-à-vis des producteurs ou en interne. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et qui sont peut-être pas forcément connus. Alors, donc, à vous de nous dire un peu.
La route est longue. Oui. La route est longue. Mais on a beaucoup de choses. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est multicomposante. J'ai assisté hier au baromètre de la. C'est pas vous qui me contredirez, Madame la conseillère, de la diversité. On voit que la route est longue. Même s'il y a des progrès, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et dès qu'on manque d'attention sur un sujet, on régresse. On est très très attachés, nous, non seulement à la représentation de la diversité sur nos antennes, mais à sa bonne représentation. Vous évoquiez hier un des indicateurs positifs, c'est le rôle de minorité dans les fictions, et qu'on n'a pas nécessairement des gens de couleur qui sont les cambrioleurs, les voleurs, les escrocs, etc. Bon, nous, Canal+, on a toujours fait attention. Je ne vais pas revenir sur toutes les figures historiques de Canal, mais je pense évidemment à Jamel ou à d'autres, et aujourd'hui à Mouloud. Mais on a toujours été, par exemple, attentif au rôle des femmes ou des minorités dans les fictions. Si vous avez l'occasion d'aller sur notre service délinéarisé MyCanal et que vous regardez les fictions de Canal+, et les têtes d'affiche, vous verrez que vous avez plus de femmes et de minorités que d'hommes blancs de plus de 50 ans, pour citer les termes de Delphine Ernotte. Et on a créé des comités en interne aussi, qui sont d'ailleurs pilotés par Grégoire Castin. Trois comités, d'abord sur la femme, parce que je considérais qu'on avait beaucoup encore de progrès à faire, donc on l'a appelé et ta sœur. C'est un comité qui se réunit très fréquemment et qui vise tous les sujets, c'est-à-dire de l'antenne à la production, au sujet, j'ai envie de dire, corporate, Canal+, en tant qu'employeur. Et dans la foulée, on a créé deux autres comités, un qui s'appelle « Et ton frère » sur la diversité et l'autre qui s'appelle « Et ta planète » sur l'environnement, qui est un sujet qui tient à cœur à beaucoup, évidemment, de nos salariés, de nos abonnés et à nous-mêmes. Tu voulais que tu aies complété ?
Oui, simplement en chiffres, parce que c'est intéressant. Un quart des préachats de films concernent des films qui ont été réalisés par des femmes. Donc, on peut mieux faire, mais on se fixe des objectifs qui montent.
Un indicateur qu'on suit aujourd'hui dans nos comités d'acquisition cinéma, où systématiquement, on met en avant les films qui sont réalisés par des femmes pour faire augmenter ce pourcentage de mois en mois.
Et sur les créations originales, en 2019, 50% des créations originales ont été réalisées par des femmes. Cathy Vernet pour Vernon Subutex, Généry pour Mouche, ou Rebecca Slavowski pour Les Sauvages. Et puis, vous le savez, nous sommes précurseurs aussi sur toutes les questions LGBTQ+. Nous avons été à l'initiative de la Nuit Gay. Au-delà de ça, nous avons créé un corner, une chaîne digitale, Hello. Et pour Et ta sœur, il y a un comité qui se réunit régulièrement, auquel toutes les personnes de l'éditorial sont bien sûr extrêmement impliquées.
Très bien. Monsieur le Président, on arrive au terme de cette heure et demie. Je vous donne la parole en dernier. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je crois qu'on vous a bien entendu avec votre propos liminaire très, très clair. Et je remercie votre équipe également des réponses qu'ils nous ont apportées. Mais vous souhaitez peut-être ajouter un dernier mot ?
Non, je souhaitais simplement vous remercier de nous avoir reçus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, le Collège va délibérer sur cette candidature pour se prononcer sur sa sélection. Et vous en serez naturellement tenu informé. Merci beaucoup. Cette audition est levée.